en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Souvent évoqués au titre de proches cousins, les singes sont étudiés dans leur capacité à ressembler à l'homme, tant par leur aptitude intellectuelle que physique. Pourtant, deux paléoanthropologues, Jean-Jacques Millet et Guillaume Davert, ont voulu inverser la tendance et se sont ainsi penchés sur les structures sociales et les modes de locomotion de différents groupes de singes afin de mieux comprendre l'évolution de l'homme. Ils ont ainsi présenté leurs travaux lors d'un colloque intitulé « Des singes pour modèles » organisé le 15 octobre à l'Institut de paléontologie humaine. Vous allez donc les entendre successivement exposer leurs travaux.
Je me suis donc intéressé à des questions qui touchent à la locomotion des hominidés dans mes recherches et je me suis concentré tout particulièrement sur les origines de la main humaine, autrement dit aussi quelque part à la main des premiers hominidés. Avant de passer dans le vif du sujet, je vais donc recontextualiser un petit peu, vous présenter le contexte dans lequel cette recherche a été réalisée. Il apparaît que les humains se distinguent des autres primates par un comportement locomoteur qui lui est propre, qui se distingue d'une part par une bipédie permanente et d'autre part par l'utilisation d'un membre antérieur en dehors de toute fonction locomotrice. Ce n'est pas le cas évidemment chez les autres primates non humains, dont ici vous sont présentés nos plus proches parents en tout cas. On a d'une part des grands singes africains essentiellement quadrupèdes, un peu au même titre mais différemment que les autres singes de l'Ancien Monde et du Nouveau Monde. Et on a aussi la pratique de suspension, par exemple, chez les grands singes asiatiques et chez certains singes du Nouveau Monde. Donc la question qui reste encore particulièrement d'actualité, c'est de savoir à partir de quel type de comportement locomoteur est née la bipédie, telle qu'on a pu l'observer chez certains hominidés, puis chez l'homme, et donc dans quelles conditions les spécificités du membre antérieur humain sont nées, en fait. Donc deux hypothèses sont privilégiées actuellement. D'une part, soit ce dernier ancêtre commun, donc noté DAC, était arboricole majoritairement, soit alors il était également quadrupède terrestre. Donc cette question de l'identité qui tournait autour de l'identité de ce dernier ancêtre commun, c'est une vieille question et qui était particulièrement débattue à des époques où les fossiles étaient encore rares, trop rares pour pouvoir tester des hypothèses en tout cas, des scénarios. La proximité, entre certains grands singes et l'homme, c'est quelque chose qui est connu depuis bien longtemps, c'était déjà énoncé au 19e siècle chez Darwin, Huxley et d'autres. Mais la véritable formalisation, la première formalisation d'une hypothèse de comportement locomoteur ancestral, c'est quelque chose qui est arrivé au début du 20e siècle par quelqu'un qui s'appelait Monsieur Kiff et qui proposait donc un modèle ilobatien et qui s'appuyait sur une première constatation, c'est que la plupart des grands singes sont impliqués dans des comportements de suspension, c'est-à-dire qu'ils font appel aux mains, et que lors de ces comportements, ces primates disposaient le grand axe de leur tronc verticalement par rapport au substrat horizontal. Donc, conditions qu'on pouvait retrouver éventuellement dans le cadre de la bipédie humaine. Mais il y a eu d'autres modèles depuis qui ont été développés, bien sûr. D'une part, celle d'un grimpé vertical, c'est-à-dire d'un grimpé sur support vertical. Ce modèle-là insistait plus sur le fait que les muscles qui étaient recrutés lors de ce type de grimpé étaient sensiblement les mêmes qui étaient recrutés dans le cadre de la bipédie. On a également l'hypothèse d'un ancêtre commun qui était quadrupède terrestre, qui reposait notamment sur des proximités, enfin sur la ressemblance que certains quadrupèdes terrestres peuvent avoir au niveau de leurs mains et de leurs pieds, par exemple, avec les humains. Et on va s'intéresser surtout aux trois hypothèses qui ont été récemment soutenues. C'est d'une part l'hypothèse dite du knuckle walking. Donc le knuckle walking, c'est cette quadrupédie utilisée par les chimpanzés et les gorilles notamment, et qui fait que ces derniers reposent le poids de leur corps sur les phalanges moyennes, comme l'indique d'ailleurs l'illustration à ce niveau. La seconde hypothèse, donc cette hypothèse-là a été réhabilitée, parce que c'était aussi quelque chose qui a été proposé bien avant, mais qui a été réhabilitée dans les années 2000. Hein. La deuxième hypothèse importante, hein, c'est celle de l'orthogradie verticale. Donc un petit peu globalement, ça repose sur une constatation qui a été faite en milieu naturel chez des orang-outans. Et il se trouve que ces derniers peuvent pratiquer des modes de locomotion qui ressemblent à une, on pourrait appeler ça une bipédie arboricole, hein, qui est stabilisée au niveau des mains, c'est-à-dire que les mains saisissent des branches placées en surplomb, ce qui permet de les stabiliser pendant leur marche. Et là encore, c'est une fonction qui fait appel à une fonction d'extension de la jambe par rapport au tronc, chose qu'on retrouve également dans le cas de la bipédie. Et la troisième hypothèse, qui est soutenue depuis peu, enfin qui est réhabilitée là encore depuis peu, c'est-à-dire 2 semaines concrètement, et ce serait l'hypothèse d'un ancêtre qui était relativement généraliste, mais qui pratiquait vraisemblablement une forme de palmigradie, avec un peu de grimpé éventuellement. Donc c'est ces trois dernières hypothèses qui vont faire l'objet de discussions actuellement, et on se rend compte, là encore, qu'on en a deux types, l'une qui favorise la terrestrialité, l'autre l'arboricolie, et que l'ensemble de ces hypothèses mettent en avant le rôle fondamental de la main, hein, que je me propose d'aborder aujourd'hui. Je vous ai présenté un peu ce que l'on sait sur les primates actuels, sur leur locomotion et en rapport avec leurs mains. Maintenant, il s'agit de savoir qu'est-ce que l'on sait à propos des grands singes fossiles. Bon, d'abord, on se rend compte que c'est une histoire qui est assez ancienne, puisque parmi les hominoïdes possibles, les plus anciens datent au moins du Miocène inférieur, c'est-à-dire à peu près 20 millions d'années. La deuxième chose importante, c'était d'illustrer le fait que, a priori, la plupart d'entre eux étaient quadrupèdes. Certains devaient être quadrupèdes arboricoles, et donc la plupart devaient pratiquer une forte composante de quadrupédie. Et éventuellement, on a aussi l'apparition de la suspension au Miocène supérieur. Donc là, pour le coup, on se situe entre 11 millions d'années, 5 millions d'années. Mais on a aussi l'émergence d'une quadrupédie terrestre, ici, au Miocène moyen, chez Equatorius en particulier, qui reste hypothétique, hein. Et enfin, la troisième chose qui est importante, c'est l'émergence de la bipédie, donc, qui intervient dès le Miocène supérieur. Donc, au moins, on est sûr qu'il est apparu à peu près à 6 millions d'années. Pour certains auteurs, cette bipédie était associée, au départ en tout cas, à une forme de grimpé. Et il se trouve qu'au Miocène supérieur, les primates qui pratiquaient une bipédie devaient pratiquer également une forme de grimpé. Mais ceux que l'on retrouve au Pliocène, c'est-à-dire les australopithèques, donc entre 5 millions d'années et 1 million d'années, mettons, ces derniers devaient pratiquer une bipédie, mais savoir si leur membre antérieur était impliqué dans une forme de grimpé, c'est quelque chose qui reste débattu. Donc, pour le coup, je me suis intéressé plus particulièrement aux poignets. Alors, pourquoi ? Parce que, déjà, la main, c'est quelque chose de compliqué, il fallait faire un choix, quelque part. Mais surtout, parce que le poignet est responsable de l'orientation de la main, je dirais à quasiment 360 degrés. Et en plus, il permet de refléter les différents modes locomoteurs utilisés par les primates. D'une part, il permet de distinguer un mode d'utilisation de la main en compression, comme c'est signalé en bleu, chez les grands singes africains ou chez certains cercopithécoïdes, pardon. Ou alors il peut témoigner de l'utilisation de la main en tension, comme c'est le cas chez les grands singes asiatiques et chez certains singes d'Amérique du Sud. La question est donc de savoir, notamment, si le dernier ancêtre commun aux grands singes africains et aux humains utilisait sa main préférentiellement en tension ou en compression. Le souci, c'est que c'est une zone anatomique particulièrement compliquée. D'une part, parce qu'elle est impliquée dans 3 types de mouvements. Donc, vous avez en haut, d'une part, la flexion-extension, ce qui vous permet de faire donc l'extension, la flexion. Vous avez la déviation radio-ulnaire, donc les mouvements de déviation radiale, déviation ulnaire. Hein. Et les 3 mouvements, c'est les mouvements de rotation de la main. Bon, le nom qu'on utilise en général, c'est la pronosupination. Toujours est-il que ça en fait 3, ce qui est beaucoup. La deuxième chose, c'est que quand le poignet est utilisé en tension, ce sont les ligaments qui en assurent la stabilité, hein, comme le montre cette radio. Et la troisième chose, c'est que les os sont nombreux dans cette articulation, et on peut au moins dire qu'ils se composent de 2 rangées, l'une dite rangée carpienne proximale, qui est en bleu, et l'autre rangée carpienne distale, qui est en jaune. La plupart des choses, ce que l'on sait des primates actuels, repose essentiellement, concernant le poignet, hein, fait essentiellement référence aux primates à comportement suspendu. Donc la question, c'était de savoir comment bougent ces 2 rangées carpiennes, par exemple, et plein d'autres informations d'ailleurs hein, qui manquaient, mais on peut déjà citer cet exemple, comment ces deux rangées carpiennes se déplaçaient chez les singes quadrupèdes, par exemple. Donc, si on fixe un peu les objectifs, il s'agissait de caractériser le rôle locomoteur qu'avait pu jouer le poignet chez les grands singes fossiles. Il fallait donc avoir deux approches. La première concernait les primates actuels. D'abord, savoir comment ce poignet fonctionne chez les primates actuels pour ensuite pouvoir mieux interpréter les fossiles. Dans cette première approche, je dirais qu'il y avait deux objectifs là encore. Savoir parmi les quadrupèdes, les primates quadrupèdes, est-ce qu'il y a des différences de mobilité entre les deux rangées carpiennes, par exemple, de savoir s'il y avait des différences au niveau des zones d'insertion des ligaments qui en permettent la stabilité. Et la deuxième chose, c'était de savoir si la forme des os hein, permet de refléter l'utilisation d'un poignet en compression de celui utilisé en tension. À partir du moment où on connaît, on peut établir un modèle, justement, à partir des primates actuels, pour ces deux types d'informations, il suffit ensuite d'insérer, si je puis dire, les données issues des fossiles pour en permettre une interprétation. Hein. Donc l'ensemble de ces résultats concernant les fossiles ont ensuite été confrontés à l'ensemble des interprétations dont on disposait dans la littérature et qui concernaient le squelette locomoteur. Une synthèse a pu être faite et ensuite les implications évolutives de tout ça seront présentées également. Donc le premier point va se concentrer sur le poignet des primates actuels. Donc il y avait trois hypothèses à tester. Les deux premières, c'était d'une part de savoir s'il y avait des différences de mobilité entre les deux rangées carpiennes, notamment qui permettraient de distinguer les primates quadrupèdes. La deuxième, c'était de savoir est-ce qu'on a des zones d'insertion ligamentaire qui sont différentes et qui laissent des marques sur l'os différentes. La troisième chose, c'était de savoir, là encore, si les os du poignet permettaient, par leur forme, de témoigner de l'utilisation en compression ou en tension du poignet. J'ai rassemblé ces trois hypothèses en deux groupes. Les premières en blanc font appel à un premier protocole, alors que les secondes, ici, font appel à un autre type de protocole. Pour l'ensemble de ces études, j'ai utilisé différents types de matériel. D'une part, c'était des cadavres frais pour l'étude de mobilité. C'est aussi des spécimens conservés dans le formol. Ça, c'était pour faire des dissections. Et dans un troisième cas, c'était du matériel osseux, tout simplement, pour faire d'une part des observations et pour quantifier la forme de certains os. Donc tout d'abord la mobilité et la stabilisation. Le but de la démarche, c'était donc de faire des radios du poignet aux positions extrêmes, donc flexion, enfin extension, flexion, puis en déviation radiale et en déviation ulnaire, de mesurer les angles réalisés pour chacune des rangées carpiennes les unes par rapport aux autres, pour globalement avoir l'idée d'avoir une idée de leur mobilité relative au cours du mouvement. Une fois que cette chose a été faite, cette première étape a été réalisée, j'ai pu ensuite faire des dissections qui m'ont permis de faire une cartographie des ligaments. Il s'agissait de savoir si on retrouvait tout simplement les mêmes ligaments. À partir de là, j'ai pu ensuite réaliser des observations morphologiques directement sur l'os. Et il s'agissait de savoir si, pour les ligaments observés, on observait donc des variations de morphologie. C'est-à-dire, est-ce que ces ligaments laissaient des traces sur l'os, des marques osseuses qui sont différentes selon le comportement locomoteur. En l'occurrence ici, il s'agissait de savoir si chez les primates quadrupèdes terrestres, on observait des différences notables. Le deuxième type d'observation que je voulais vous présenter aussi, c'était donc de savoir si les ligaments permettaient de laisser en tout cas des marques osseuses qui pouvaient être distinguées, notamment chez les quadrupèdes terrestres. Donc, je ne vais pas tout présenter, mais je vais m'intéresser à un complexe osseux, c'est celui du trichétrum et de l'hamatome. L'intérêt de ces deux os, c'est qu'ils sont liés par un ligament, et ce ligament participe à la stabilisation, là encore, de l'extension. Je reste sur le même mouvement. Donc, à l'issue de cette première approche, il apparaît qu'on peut répondre aux deux hypothèses qu'on s'était fixées au départ. La question, c'était de savoir, y a-t-il des différences de mobilité entre les deux rangées carpiennes chez les primates quadrupèdes terrestres? La réponse, c'est oui, on a pu le montrer, au niveau de la flexion-extension. Pour ce qui est de la deuxième hypothèse, y a-t-il des zones d'insertion ligamentaire qui sont plus marquées chez les quadrupèdes terrestres? La réponse, là encore, est oui, et cette fois, c'était le cas pour les deux mouvements. Donc maintenant, on va passer à la deuxième approche, qui est une analyse de forme. Donc, savoir, est-ce que à partir de la forme des os, on peut savoir si un poignet est utilisé en compression ou en tension. Donc on va s'intéresser cette fois à deux autres os, d'une part le capitatum et d'autre part l'amatum. Ce complexe il est particulièrement important parce que chez les primates, c'est autour de ce complexe, que de ces deux os, plus simplement, que va se faire la majorité du mouvement. Que ce soit chez les primates suspenseurs, comme les gibbons, qui utilisent donc leurs mains dans le cadre d'un crochet anatomique, ou dans le cadre de... Et c'est donc le cas également, pardon, chez des primates quadrupèdes, comme le macaque. Donc, pour ça, j'ai utilisé une méthodologie qui faisait appel d'abord à la définition de points anatomiques, qui se retrouvent sur l'ensemble de la surface de ces os. Et donc, il a fallu définir des points anatomiques sur l'ensemble sur différentes vues. Le but de la démarche, c'était de pouvoir conférer à chacun de ces points trois dimensions, donc de leur conférer des coordonnées spatiales. Et pour chaque os, ça nous a permis de disposer d'une configuration de points. Et pour chacun de ces os, donc des comparaisons ont pu être faites, je dirais, numériquement. L'intérêt de cette démarche, c'est que ça permettait aussi d'annihiler, de mettre de côté en tout cas l'effet de taille. Parce qu'entre un gibbon et un gorille, on a forcément des tailles différentes. Ça se retrouve aussi sur les os du poignet, forcément. Donc le matériel que j'ai utilisé, c'était tout d'abord un bras articulé. Donc ce bras articulé est muni à son embout d'un stylet. Et c'est avec ce stylet que je pouvais pointer mes points anatomiques. Et par un système de pédales, je pouvais valider mes points et automatiquement, il me conférait trois coordonnées spatiales. Les os, comme ils sont de petite taille et que je devais avoir accès à l'ensemble de leur surface, il fallait pouvoir les fixer. Donc j'ai utilisé pour ça une pince de modéliste et pour repérer les points, j'ai utilisé bien sûr une loupe binoculaire. Donc un premier type de résultat, c'est donc pour l'amatome. À la question de savoir est-ce qu'on peut distinguer un amatome utilisé dans un contexte de tension de celui utilisé en compression, la réponse est plutôt oui. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord parce qu'on peut discerner d'une part les gibbons, des primates plus quadrupèdes, tels que les cercopithèques, les colobes, les attelles, et pour chacun de ces pôles, on se rend compte que chez les gibbons, on a un amatome donc, qui est plutôt allongé, alors que chez les cercopithèques, on va avoir un amatome de forme plutôt comprimée. Et donc, les gorilles se rapprochent plutôt des quadrupèdes terrestres, alors que les orang-outans, ici, tendent à se rapprocher un peu plus des gibbons, même si c'est moins net. Donc, la dernière chose qui était importante, c'est que l'homme qui n'utilise pas son poignet forcément en contexte locomoteur, lui, curieusement, se place parmi les quadrupèdes. Donc c'est intéressant parce que ça permettrait de dire que peut-être que cet os, chez l'homme, porterait une sorte de vestige osseux associé à un héritage ancestral qui, pour le coup, pourrait se traduire par un ancêtre quadrupède, tout simplement. Si on regarde maintenant le capitatum, je vous ai présenté ce résultat un peu exprès, il est intéressant parce qu'on a un résultat un peu différent. Ce qui saute à l'œil dans un premier temps, c'est le distinguo entre, d'une part, les humains, et de tous les autres primates qui utilisent donc leur poignet en contexte locomoteur. Donc c'est intéressant parce que ça permet de faire la différence entre un poignet qui est utilisé cette fois dans le cadre de la saisie de force, donc en contexte non locomoteur, mais qui est typique de l'homme, de celui qui est utilisé d'un poignet qui est utilisé dans un contexte locomoteur. Donc ça se traduit par une forme du capitatum qui est plus massive chez l'homme, comparé notamment chez les primates quadrupèdes ou chez des primates qui sont vraiment suspenseurs. Donc comment expliquer le fait que la forme du capitatum puisse relater la saisie de force de type humaine ? En synthèse, on a pu dire qu'à partir de cette approche, cette analyse de forme, on a pu rendre compte d'une part que la forme de certains os du poignet permettent de rendre compte de l'utilisation du poignet en compression ou en tension, et également il peut témoigner de l'usage de la main dans un contexte non locomoteur, ce qui est quand même assez précieux. Donc à partir de là, il ne restait plus qu'à analyser les fossiles pour voir un petit peu les types de résultats qu'on pourra obtenir. Dans le cadre de cette étude, donc cette fois paléontologique, deux objectifs, il s'agissait d'évaluer d'une part la mobilité et la stabilisation du poignet chez les grands singes fossiles, donc pour les trois types de mouvements, pronosupination, déviation radio-ulnaire, flexion-extension, que vous avez présenté au début, et d'évaluer aussi les conditions d'utilisation de leur poignet, c'est-à-dire en compression, en tension, ou dans le cadre d'une saisie de force avec un pouce opposable, donc de type homo. Pour cela, j'ai donc eu accès à 115 fossiles originaux qui provenaient de différents sites, hein, d'âge du Miocène inférieur notamment, donc entre, pour le matériel concerné entre 20 millions d'années et 16 millions d'années. C'était des sites kényans hein, uniquement. Au Miocène moyen, idem, que des sites kényans, donc on se situe entre 16 millions d'années et 11 millions d'années environ. Et enfin, on avait donc les sites, on va dire, à Australopithèque et à Paranthropes, donc du Pliocène, qui s'étale sur trois pays, en fait, l'Éthiopie, le Kenya et l'Afrique du Sud. Parmi cet ensemble, 27 spécimens, d'ailleurs, n'avaient pas été décrits encore. Plusieurs taxons ont été représentés, parmi les plus importants, on va dire, que je citerai par la suite. Il y a d'abord Proconsul, qui est un taxon qu'on connaît bien, parce qu'il est bien documenté au niveau, en termes de fossiles. On a au Miocène moyen de le Nacolapithèque et l'Équatorius, qui sont là encore des taxons clés, qui permettront de comprendre aussi un peu la mise en place d'une certaine diversité comportementale à cette époque. Et enfin, donc, Australopithèque et Paranthrope pour le Pliocène. Si on applique nos deux méthodes à ce matériel fossile, donc je reprends le même exemple, c'était le cas du trichétrome amatome. On va essayer de savoir si sur le trichétrome d'une part et sur l'amatome des espèces fossiles, en tout cas, on peut retrouver la présence de zones d'insertion ligamentaire marquées. Il se trouve que ce n'est pas le cas, que ce soit chez Proconsul comme chez le Paranthrope. Donc cela suggérerait qu'on ait une absence de stabilisation du poignet à ce niveau, en tout cas, donc de stabilisation de l'extension. Si on prend le deuxième exemple, donc cette fois de l'amatome, la première observation se confirme pour les espèces considérées, donc notamment Proconsul, mais cette fois on a pu intégrer un amatome, l'amatome d'Équatorius, et qui nous montre cette fois qu'on avait une zone d'insertion assez profonde pour ce ligament. C'est dommage, on n'avait pas le trichétrome, mais ça permet en tout cas de proposer une hypothèse, une première hypothèse quant à sa stabilité qui devait être sans doute mieux assurée en tout cas pour l'extension, donc chez Équatorius. Très globalement, c'est, je suis désolé, c'est un peu compliqué, mais peut-être, mais en gros, il faut savoir qu'on a observé deux tendances. La première, qui commence dès le Miocène inférieur jusqu'au Miocène moyen, on va dire, et qui illustre une bonne stabilisation des mouvements de rotation hein, du poignet, et une bonne mobilité pour les autres types de mouvements, on va dire. Mais par contre, au Miocène moyen, on a une autre tendance, cette fois, qui se traduit par une mobilité plus réduite, une meilleure stabilisation du poignet, qui se retrouve chez Équatorius. Donc, deux tendances au Miocène moyen. Et enfin, pour le Pliocène, chez les hominidés qui sont bipèdes, c'est intéressant parce qu'on retrouve là encore une bonne mobilité du poignet globalement. Ces derniers devaient pratiquer d'importantes amplitudes de mouvement, je dirais très généralement, sauf qu'au niveau de la rotation, cette fois, du poignet, c'était moins stabilisé. Donc peut-être assujetti à des contraintes moins marquées. Si on se focalise maintenant sur l'analyse de forme, donc là je vais présenter l'analyse de 9 os fossiles qui représentent trois taxons différents. Donc d'une part Proconsul, Miocène inférieur, Équatorius pour le Miocène moyen et pour le Pliocène, Australopithecus. Là encore, donc différents types de résultats. Le premier pour l'amatome. C'est intéressant parce qu'on voit que Proconsul, même si c'est moins net, en dehors du fait qu'il s'intègre dans la variabilité humaine, il s'intègre d'abord dans la variabilité des attelles, donc qui se trouve derrière, et également en marge de la variabilité des cercopithèques. Alors que les Équatorius, lui, se place concrètement chez les cercopithèques, hein, qui se trouvent ici. Donc, peut-être une différence assez notable. Et enfin, les Australopithèques, eux, se placent en bordure des primates quadrupèdes et également en bordure de la variabilité des chimpanzés. Donc, la première chose que l'on peut dire, en tout cas, à partir de cette analyse, c'est que Équatorius et Proconsul, au regard de son amatome, semblent plutôt investis dans une forme de quadrupédie. Et peut-être une ancestralité marquée pour la quadrupédie terrestre chez Australopithèque, pour la quadrupédie, pardon. Si on regarde le capitatum donc l'analyse de forme du capitatum fossile. Il apparaît cette fois que Proconsul s'intègre dans la variabilité des primates non humains, alors que ce n'est pas le cas chez des australopithèques qui, eux, s'intègrent dans le nuage de points propre à Homo, ce qui signifierait peut-être que ces derniers utilisaient une saisie de force en contexte non locomoteur. Donc pour cette partie paléontologique, elle nous a amené en tout cas à plusieurs types de conclusions. Pour le Miocène inférieur, ce n'est donc pas une seule, mais plusieurs palmigradiques qui sont à suspecter. Sans rentrer dans les détails, ce qui est important, c'est qu'une certaine forme de terrestrialité aurait pu apparaître chez des taxons tels que Proconsul Nyanzaï ou Afropithèque. Et surtout, on a pu retrouver également des caractères qui rappellent vraiment les hominoïdes actuels, les grands singes actuels, chez Proconsul et Célonie. Au Miocène moyen, on a pu également mettre en évidence donc deux tendances, l'une vers la palmigradie arboricole, associée à une forme de grimpé, et l'autre qui intégrerait une composante plus terrestre chez Equatorius. Par contre, il n'a pas été possible de définir précisément s'il s'agissait plutôt d'une digitigradie ou plutôt d'un knuckle walking. Et enfin, on a pu mettre en évidence que chez les australopithèques, ces derniers devaient utiliser une saisie de force en dehors de tout contexte locomoteur, certainement, mais ils ne devaient pas être complètement désolidarisés du milieu arboricole, puisqu'on a pu retrouver encore d'autres caractères que je n'ai pas présentés aujourd'hui, mais qui étaient présents sur d'autres parties du poignet. Et enfin, en observant les os du poignet des australopithèques, je n'ai pas trouvé de preuves tangibles d'un knuckle walking ancestral. Donc si je reprends cette fois, en guise de conclusion, le schéma que je vous présentais au tout début, concernant l'identité du dernier ancêtre commun aux grands singes africains et aux humains, j'aurais tendance à proposer que ce dernier devait certainement pratiquer une forme de palmigradie, pas exclusive, certainement pas, il devait également aussi utiliser une bonne composante de grimper. Donc en conclusion, j'espère avoir montré l'intérêt de travailler sur des régions anatomiques un peu rébarbatives à première vue, parce que compliquées, mais celle-ci peut être particulièrement riche d'informations. Par contre, cela implique qu'il faille prendre en compte, d'une part, les os, mais également les tissus mous. Donc, de ce fait, j'espère aussi avoir montré l'intérêt et la nécessité fondamentale de pouvoir travailler sur les primates actuels comme modèle d'étude, parce qu'ils nous permettent vraiment d'avancer beaucoup plus en termes d'interprétation concernant les fossiles. Voilà.
Et en préambule, j'aimerais vous poser peut-être une question, c'est de revoir un petit peu qu'est-ce que c'est pour vous la parité à la fin de cet exposé, et également le fait qu'une certaine phrase issue des années 68 était « Notre corps nous appartient ». J'espère apporter une nouvelle réflexion à ce propos, également à la suite de cet exposé. Donc, l'homme à la mesure des grands singes. Effectivement, dans la littérature scientifique, on vous propose, dans toute bonne librairie qui se respecte, eh bien, on voit, d'après ces ouvrages, que notre société a des problèmes à objectiver ses connaissances vis-à-vis des grands singes. Effectivement, le grand singe nous fait peur, et le fait de le voir dans un miroir, on ne s'y retrouve pas forcément toujours. Pourtant, après un certain nombre d'observations et d'études sur le terrain, on s'est rendu compte que ces connaissances qu'on pouvait retirer de ces observations nous permettaient, dans différents cas, de hiérarchiser et de comprendre un petit peu ce qui faisait le fondement de nos comportements. Alors, effectivement, on a souvent, depuis historiquement, philosophiquement, mis en avant la culture et la raison pour définir l'homme. Par contre, rarement on a parlé de ses émotions. On prend également la puissance de son intellect pour le définir, parce que c'est sa culture, l'art, ses productions qui ne sont qu'humaines et qui ne sont pas retrouvées chez les grands singes. On va parler du langage aussi. Mais en fait, si on fait le rapport raison-émotion, réflexion-abstraction, c'est qu'une partie de la journée. Le reste du temps, on le passe avec des gens qu'on côtoie tous les jours, avec qui on demande si ça va, comment va le dernier, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Tiens, j'ai vu un bon film, voilà. Ça, c'est 65% de notre temps passe dans ce genre d'informations, à dévoiler ses émotions. Alors, avant de remonter très loin dans le temps, on va parler des travaux sur le terrain, comme fait par Georges Schaller, ici, qui est passé un an chez les gorilles, hein, ou Jane Goodall, le plus connu, Diane Fossey, mais Hans Kummer aussi, qui a parlé des babouins, essentiellement, l'ensemble des babouins. Donc ces observations nous ont montré différents types de groupes sociaux, de primates, différents types de comportements, de relations les uns avec les autres. Donc cela nous a permis de voir et de concevoir différentes manières de vivre ensemble. Et au fur et à mesure de ces réflexions, on s'est rendu compte, par exemple sur deux ouvrages parus plus ou moins récemment, même s'il y a 10 ans pour le livre de Saka, Homme, société, évolution, eh bien la conclusion est de savoir si l'homme est un monde ludique en soi, donc il est en dehors d'une certaine évolution, ou est-ce que l'homme fait partie intégrante d'une sorte de regroupement avec le chimpanzé, tellement les points communs sont importants. Donc on va essayer d'explorer ça et de voir un petit peu plus loin. Mais on a encore des questions qui sont sous-jacentes et qui reviennent généralement comme celle-ci. Est-ce que l'empathie a une origine naturelle? Ou encore, est-ce que la morale a une origine naturelle? Ou encore, est-ce que la culture a une origine naturelle? Ça, ce sont toutes les réflexions que nous amène la connaissance des grands singes, de toutes ces questions qu'on se pose actuellement. Alors, bon, moi, parce que je viens de mes montagnes, donc je vais repartir depuis le début de l'émergence des premiers primates. Donc pendant le secondaire, on a retrouvé des traces de dinosaures, c'est pour ça, dans le sud du Jura, il n'y a pas longtemps. Donc, les premiers primates pendant le secondaire, mais dans une espèce de environnement arboricole où les premières choses qui vont constituer un petit peu notre organisation, notre squelette, parce qu'en tant que paléontologue, on travaille là-dessus, hein, ce sont des os, eh bien, dans ces os, nous montrent, et ce qu'on voit tous les jours face à face dans son miroir, qu'on a une vision binoculaire qui nous permet la vision des couleurs et de la profondeur. C'est important quand on vit dans les arbres, ne serait-ce pour discerner s'il y a des fruits dans les frondaisons ou pas, et de la distance qu'on va faire si on fait un bond pour passer d'un arbre à un autre. Le pouce opposable, donc vous avez tous compris pour la saisie. Bon, les griffes et les ongles, les griffes, c'est sur les anciens groupes, les plus anciens fossiles et encore les prosimiens. Et les ongles, ben, nous, qu'on a aujourd'hui. Et une longue queue, qui peut être plus ou moins vestigiale. Alors, notre squelette possède, dans son organisation, différentes caractéristiques qui nous permettent déjà, avec ce qu'on a sur nous, de reconstituer notre histoire. Et effectivement, le menton, il a à peine 200 000 ans. Mais toute cette histoire de l'homme, il faut la mettre, faut avoir un petit peu de recul. Parce qu'en fait, notre histoire, elle n'est qu'un épiphénomène de toute l'histoire de l'évolution des organismes vivants. Dans ce qu'on peut retrouver dans le livre de l'éventail du vivant, et qu'effectivement, si on a des bactéries depuis le précambrien, eh bien, ces bactéries sont toujours là et en masse beaucoup plus importantes que ne le sont tous les organismes complexes. Et les hommes ne sont qu'un épiphénomène de cette histoire. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est une sorte de petit bilan des connaissances sur les primates, revoir un petit peu ce qu'on connaît de leur socio-écologie, sur la nature des groupes sociaux, de leur morphologie. Voilà. Et après, avec cette connaissance que vous allez avoir, eh bien, regardez un petit peu comment se font les rapports entre les individus, ce qu'on va appeler stratégie de reproduction, et ce qu'ils font les données de croissance sur le sevrage, l'espace entre les naissances, l'âge premier petit, l'âge de rentrer dans le domaine social, par exemple, maturité sociale, et enfin la durée de la vie. Et ensuite, fort de tout cet amas de connaissances que vous allez maîtriser sans problème à la fin de ce deuxième chapitre, eh ben, on va essayer de voir comment ça se passe chez les Néandertaliens et chez les hommes de Cro-Magnon, et pourquoi pas chez les Australopithèques. Allons-y. Alors, il y a plus de 235 espèces de primates réparties entre les prosimiens, les singes de l'Amérique, les petits singes de l'Ancien Monde et les grands singes. Sur la locomotion, comme on l'a vu tout à l'heure, elle est souvent associée, la bipédie pour nos ancêtres, et puis bon, bah, chez les grands singes, il y a le knuckle walking, la marche sur les phalanges. Bon. Mais ce qu'on connaît aussi, c'est qu'on les a vus utiliser dans leur comportement eh bien, des positions bipèdes. On a vu des femelles bonobos discuter, c'est un bien grand mot, mais remonter le cours d'une rivière pendant plus de 2 km à la recherche de poissons ou je ne sais quoi comme denrées alimentaires, mais en fait, elles ont marché sur 2 km. Donc, il y a une sorte de panel de possibilités de comportement locomoteur, en plus d'une habitude générale qui est la marche sur les phalanges. De la nourriture à l'innovation technique. Et bien là encore, c'est pareil, les grands singes nous ont apporté pas mal d'éléments de réflexion. C'est-à-dire que bon, bah, pour aller dans la nature, on va chercher des aliments très particuliers pour se soigner. Ça, ce sont des expériences qui ont été faites et observées par des gens du muséum. Donc on va chercher des feuilles avec des poils un petit peu abrasifs et, qui forment des crochets pour les manger et se nettoyer un petit peu le tube digestif. Donc ils utilisent certaines plantes, certaines écorces pour se soigner. Faire une éponge avec des feuilles pour aller puiser de l'eau. Utiliser des baguettes pour aller à la pêche aux termites ou aux fourmis. Et, comme on le voit ici, les introduire dans une termitière ou une fourmilière et puis voir les petites bêtes mordre à la baguette et se nourrir. Bon, il y a toujours un outil qu'on utilise, hein, c'est la dent, la canine qui sert à casser un petit peu tout ce qui est un peu dur. Bon, on va utiliser des pierres pour casser des noix. Eh bien, elles ont des traces de percussion, comme on pourra le voir tout à l'heure, des stigmates de percussion, mais elles font 6 à 7 kilos en moyenne. Donc essayez-vous chez vous avec un poids de 7 kg de casser des noix ou des noisettes, vous allez voir ce qui en reste à la fin, des premières expériences. Donc il faut quand même une certaine agilité pour arriver à casser les noix sans faire de la purée au départ. Et cet apprentissage du cassage de noix dure plusieurs années pour le petit chimpanzé. Mais il n'y a pas que les chimpanzés qui utilisent des outils. Des femelles gorilles, par exemple, va chercher une branche pour tâter le fond d'un marigot pour pouvoir le traverser, pour mesurer la hauteur d'eau, ce que font aussi les orang-outans. Alors, une des choses qui a été trouvée il y a quelques temps maintenant, sur une fouille, on a retrouvé des traces de percussion sur une enclume et sur un percuteur liées à du cassage de noix. Alors, une chose, là, c'est un passage que j'aime assez bien. Dans la préhistoire, les préhistoriens ont souvent dit que les hommes étaient des chasseurs. Et là, la différence, c'est que c'est l'homme qui est chasseur, pas la femme. D'accord ? Et on a des grandes observations, plein de films qui montrent tout un tas de chimpanzés entourés d'un singe bleu qui est dans les frondaisons des arbres, et il allait le chasser, et le dernier l'attrape, et ensuite il partage le butin. Ça, c'est ce qu'on appelle les connaissances classiques. Mais il y a au Sénégal des observations qui ont été un peu, quand même, spéciales, parce que la vidéo aussi qu'on peut voir sur Internet est un peu sportive. Eh bien, vous avez des femelles chimpanzés qui vont également à la chasse, mais elles y vont toutes seules avec leurs petits à côté d'elles, et elles vont prendre une sorte d'outil en bois. Dans les publications, on l'y lance, mais bon, c'est un bout de bois un peu appointé qui va lui servir pour attraper un petit galago, c'est un petit singe nocturne qui dort la journée dans des trous des arbres. Elle va essayer d'en embrocher un ou deux, dans la vidéo on le voit, et pour, une fois attrapé, eh bien, le manger. Donc non seulement ce sont les femelles qui vont à la chasse, mais en plus, elles y vont avec un outil, ce que font pas les mâles. Bon, donc du coup, maintenant, la chasse est partagée. Alors après, tout un tas de comportements aussi qui, mis bout à bout, eh bien, sont plus notre propre à nous, le propre de l'homme, mais disons que c'est le propre du groupe dans lequel on va rajouter les grands singes. Il y a le rire, la conscience de soi, le jeu... pratiquer, les coalitions, c'est-à-dire qu'on va chercher l'aide d'un ami pour se sentir plus fort et aller, sans faire trop de mal, mais disons, effrayer un petit peu un troisième pour lui piquer sa place dans la hiérarchie, parce que ce qui compte quand même, c'est de rester dans une position importante dans la hiérarchie sociale. Et puis il y a aussi l'empathie. L'empathie, c'est ressentir les émotions de quelqu'un rien qu'en... en étant un petit peu à distance, mais savoir un petit peu son état de santé ou son état de psychologique. Donc, tous ces genres de comportements trouvent leur origine dans une sorte de vie sociale. C'est-à-dire que c'est la vie en société, la vie en groupe qui génère tout un tas de comportements et de capacités intellectuelles. Alors, forcément, quand on se pose la question à savoir est-ce que les singes parlent ou peuvent parler, eh bien, on a essayé d'apprendre à une jeune chimpanzé de dire des mots. Et visiblement, les résultats ont montré qu'elle ne pouvait pas les prononcer, ou mis à part cup, ou je ne sais quoi encore. Bref, anatomiquement, ce n'est pas forcément possible. Mais est-ce que c'est la bonne question à se poser? Ou en fait, il faut peut-être retourner les choses d'une autre manière. Parce qu'on s'est rendu compte avec les expériences de Savage Rumbo que certains primates, comme ce bonobo qui s'appelle Kanzi, est capable, en utilisant des idéogrammes sur un ordinateur, de communiquer et de faire des actions assez simples et de créer une sorte de je ne sais pas si on peut appeler sa phrase, mais en tout cas, il arrive à se faire comprendre et à répondre aux questions qu'on lui pose. Donc il y a quand même quelque chose qui leur permet d'exprimer autrement que par des gestes, ce qu'ils ont un petit peu dans la tête. Sinon, une autre expérience concerne l'apprentissage de la langue des signes. Alors, rien que par rapport à ça, sur le langage, eh bien, on sait que ce langage, il apparaît très très tôt, et que les enfants l'apprennent pendant plus ou moins une longue période, mais qu'il est aussi porté par le corps, ce langage. Donc il y a un langage corporel qu'on utilise tous les jours, ne serait-ce que par l'empathie, qui utilise aussi ces mêmes chemins pour comprendre l'autre. Alors, on va reprendre la conscience de soi, parce que se regarder dans la miroir, eh bien, ça nous permet de nous examiner. Donc tout ça fait qu'on a un langage corporel ou un pré-langage déjà présent chez les primates, chez les grands singes notamment. Et donc ce pré-langage sert dans tout un tas de comportements qui sont utilisés dans le corps social. Alors le corps social, ben justement, on va essayer de le voir. Donc c'est un peu compliqué, hein. Tous les primates ne vivent pas de la même manière, c'est pas le même type de groupe. Donc j'ai essayé de sortir un petit peu différents types d'éléments pour voir un petit peu quelles sont les différences. Donc on va voir le territoire. Territoire qui peut être fermé ou perméable, des liens très forts ou moins établis, les adultes et les juvéniles. Donc on va essayer de trouver un petit peu les formes globales à ces groupes sociaux. Donc Itani en 84 a sorti 4 types de structures sociales. Donc matrilinéaires, ce sont les femelles qui restent sur le territoire et les mâles qui arrivent pour s'installer dans ce groupe social ou s'en vont quand ils sont adolescents. L'opposé, c'est patrilinéaire. Ce sont les mâles qui restent dans les territoires, un territoire fermé pour protéger la nourriture et les femelles à l'intérieur. Et on peut incorporer des femelles adolescentes qui arrivent et les femelles adolescentes du groupe vont, elles, par contre, partir. Voilà, entre matrilinéaire et patrilinéaire. Les polyandres, donc c'est une femelle pour plusieurs mâles. Donc les mâles peuvent arriver, la progéniture mâle et femelle s'en vont, ou polygyne, eh bien on a un seul mâle pour plusieurs femelles, et les adolescents, mâles et femelles s'en vont. Par contre, ce sont que des adolescentes femelles qui peuvent être incorporées au groupe. Et enfin, le dernier, bah, nous avons monogame, un couple, ou bilatéral, c'est multimâle, multifemelle. Alors chez les gorilles, si on fait un petit bilan comme ça chez les gorilles, qu'est-ce qu'on voit ? Donc les gorilles sont polygynes. On a un mâle, plusieurs femelles sur un territoire qui est avec une frontière perméable. La progéniture s'en va, il n'y a que les femelles qui peuvent rentrer dans l'intérieur du groupe. Donc ce sont des tout petits groupes. Les orang-outans, même type, polygynes encore, un mâle sur un grand territoire protégé, avec des femelles qui ont elles-mêmes leur petit territoire. Alors là, on se rend compte qu'en fait, il y a des frontières sur ce territoire perméable parce que la quantité de nourriture qu'on peut trouver sur le domaine est restreinte. Donc de ce fait-là, ben on protège quand même ce qu'on veut pouvoir manger. Et donc ben la rentrée d'autres individus sur le territoire est un peu filtrée. Donc un mâle polygyne pour les orang-outans. Chez les chimpanzés communs, eh bien on a par contre toujours un territoire fermé parce qu'il est bien connu que les mâles chimpanzés s'en vont en cohorte pour vaincre tout intrus sur le territoire. Si c'est un mâle, il a intérêt à partir très vite, ou si c'est une femelle, bon, ça va. Si elle est jeune et non accompagnée, elle peut rentrer à l'intérieur du groupe. Donc tout ça, voilà, ça régit une sorte de protection des territoires. Eh bien, on a une hiérarchie, un mâle dominant, qui va avoir des relations privilégiées avec les femelles. Certaines femelles sont plus privilégiées que d'autres, parce qu'il y a encore une hiérarchie là aussi. Donc il y a une femelle dominante également. Voilà. Mais l'ordre est respecté, hein, parce que ce sont les mâles qui gèrent la politique de la société. Alors, vont rentrer dans le groupe les petites femelles adolescentes et vont partir les femelles adolescentes. Ce qui permet d'éviter l'inceste, par exemple. Les bonobos. Alors, les bonobos, c'est un peu plus compliqué. Ce sont des chimpanzés aussi, mais pygmées, cette fois. Eux, ils ont une société encore patrilinéaire, comme les chimpanzés, sauf que le centre de la société est occupé par des femelles qui ne sont pas issues de ce groupe, mais qui se constituent une sorte de hiérarchie par des relations privilégiées entre femelles. Et elles vont avoir, elles, des relations plus ou moins privilégiées avec chacun des mâles du groupe. C'est-à-dire que les mâles ne sont pas en cohésion, et ce qui explique des frontières un peu diffuses. Donc, finalement, un groupe social un peu différent de celui des chimpanzés. Commun. Les gibbons. Alors ça, c'est le symbole même de ce qu'on entend tout le temps parler de la monogamie. Hein. Nous avons un mâle et une femelle avec une progéniture, et la progéniture s'en va une fois qu'arrive l'adolescence. Et voilà. Et puis éventuellement, certaines des jeunes femelles peuvent essayer de rentrer dans le groupe et rester un petit moment. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas des groupes monogames stricts, en fait, véritablement. Les gibbons tolèrent la présence d'un individu de sexe identique ou de sexe différent dans la proximité de leur giron à un moment donné, mais pas très longtemps. Donc il y a la structure privilégiée qui reste entre le mâle et la femelle. Ce qui n'empêche pas qu'en frontière du territoire, les gibbons peuvent s'amuser à les chanter, parce qu'ils chantent tous les matins pour protéger leur territoire et le soir, mais d'aller chanter au bord du territoire à un moment pour donner l'information à son conjoint et d'aller voir de l'autre côté si la voisine elle est, ou le voisin est disponible. Donc ils ont une drôle de manière de présenter la monogamie. Si on fait le bilan de toutes ces observations, c'est qu'au sein de ce groupe des hominoïdes et des hominidés et des pongidés en même temps, eh bien, en fait, on partage un certain nombre de caractéristiques, notamment de comportement, et de structures élémentaires, on va dire, de comportement, du langage, de l'empathie, de tout ce qui est capacité de coalition, de réalisation de politique, bref, qui font partie de ces, depuis très longtemps, en fait, de notre potentiel. Donc ça veut dire que dans tous nos ancêtres, Australopithèque ou Homo erectus ou autre, eh bien, avaient déjà ces capacités-là. Pour aborder la croissance, parce qu'on va pouvoir enfin parler de croissance aujourd'hui, ce qui n'est pas évident, hein, eh bien, on va essayer de trouver un moyen de rentrer dans une explication possible pour savoir comment on grandit à l'intérieur de chaque groupe social. En fait, c'est par exemple presque qu'on pourrait demander, c'est comment tu grandis, j'essaierai de voir dans quel groupe social tu vis. Et si ça marche, eh bien, on verra qu'on a quand même fait une bonne expérience. Donc ensuite, on va utiliser un certain nombre de données concernant l'âge au sevrage, l'espace entre les naissances, bref, l'âge à la maturité sexuelle et autres paramètres pour voir comment ça se passe également. Donc quel modèle ? Eh bien, on va prendre un point de départ qui est la croissance. Alors, depuis un certain nombre d'années, on a observé que la durée de vie chez les hommes et puis chez les autres grands singes ou petits singes ou singes non humains ou prosimiens, eh bien, que la durée de vie n'est pas la même. Par contre, la succession des phases entre infantile, juvénile, adolescente et adulte, eh bien, elles ont des durées plus ou moins variables avec des périodes de reproduction, ici pour la femelle, comme l'indique l'auteur, plus ou moins longues. Et vous remarquerez que quasiment chez toutes les espèces de primates, eh bien, on peut se reproduire quasiment jusqu'à la fin de sa vie, sauf que chez les hommes, on a encore autre chose après la reproduction, heureusement. Alors, la petite chose que je voulais vous montrer tout à l'heure sur les groupes sociaux, eh bien, les hommes, multi-mâles, multi-femelles, le dimorphisme, c'est la différence entre les hommes et les femmes au niveau du poids. Donc 80% du poids de l'homme enfin, la femme représente 80% du poids de l'homme. Et par exemple, chez les sociétés monomâles, donc polygynes, gorilles ou orang-outans, on voit que le rapport est de 1 sur 2. Donc là, il y a des grosses différences entre les multimâles, multifemelles, on est entre 70 et 80%, ou les monogames, où on approche les 90%. Donc ça veut dire que les différences entre les hommes et les femmes, les mâles et les femelles, en fonction des groupes sociaux, indiquent déjà quelque chose. Donc on va essayer de voir plus loin. Le dimorphisme sexuel, donc ce sont les différences entre les mâles et les femelles. On voit bien ici avec les araignées que la femelle peut être un petit peu plus grosse que le mâle. Chez les otaries aussi. À quoi c'est dû? Eh bien que le fait de porter des caractéristiques, on appelle ça des superstructures sexuelles, eh bien sont en relation avec la sélection sexuelle. Cette sélection sexuelle, c'est une compétition entre les individus d'un même sexe. Par exemple, pour les mâles, avec le flot de testostérone qui arrive à ce moment-là, eh bien, on va faire des combats, on va se mesurer les uns aux autres pour montrer qu'on est le plus vaillant. Et libre aux femelles, ensuite, de choisir celui qui leur plaît le mieux. Donc c'est là, il y a un truc que les garçons n'ont pas bien saisi, c'est le choix des dames. Parce qu'à la fin, c'est elles qui choisissent. Alors, tout ceci dépend de la stratégie de reproduction, donc qui est une stratégie K lente, avec un seul petit et qu'on va éduquer et élever pendant un certain nombre d'années, avec un gros investissement parental, ou la stratégie R, qui est la stratégie rapide, donc plusieurs portées dans l'année avec plusieurs petits. Il y a des petites choses aussi, comme ça, qui sont assez intéressantes. Là, c'est une figure qui est issue d'un travail de Short en 79, mais elle est assez expressive. On voit par exemple chez le gorille, enfin c'est la femelle gorille vue par le gorille. Donc on voit, elle a une toute petite vulve et des tout, enfin pas, quasiment pas de sein, alors que le mâle, lui, il a un tout petit pénis et un tout petit volume séminal. Bon, on est dans un groupe monomâle polygyne. Peut-être que le fait d'être sûr, parce qu'on est quand même le plus fort, de pouvoir avoir sa progéniture, fait qu'on a ce genre de caractéristiques. Chez les chimpanzés, ça change tout. Le chimpanzé, il a un énorme volume séminal, pour le mâle, et un long pénis. La vulve, chez les chimpanzés femelles, est très volumineuse, suivant les saisons, en fonction de l'ovulation. L'ovulation, donc, est signalée. Pour les chimpanzés, commun. Et, bon, voilà. Donc ça, c'est multimâle, multifemelle, mais avec une compétition spermatique, on va dire, pour les mâles. Chez les hommes, bon, bah, on a un autre rapport qui est non pas au niveau de la vulve, mais au niveau des seins. Donc on a forcément quelque chose, un autre rapport visuel dans les stratégies de séduction également. Tout petit volume séminal, donc il y a une moins importante compétition spermatique. Donc comme on le voit là, tout ce qui est appareil reproducteur rentre aussi dans des stratégies, et elles sont, d'après leur volume, leurs caractéristiques morphologiques, eh bien, en relation avec les stratégies de reproduction, et donc le groupe social. Donc, est-ce qu'on a un ou plusieurs modèles hominoïdes? Eh bien, en fait, on en a plusieurs. Donc, ce qui veut dire que, comme on voit un groupe, si on arrive à déterminer, l'unité de base sociale ou le groupe social avec sa stratégie de reproduction, sa stratégie de croissance, c'est-à-dire comment on grandit dans une société, eh bien on arrive à retrouver les caractéristiques de sevrage ou de maturité sexuelle ou de maturité sociale. Mais ça marche dans l'autre sens. Si on trouve ces caractéristiques-là, on peut arriver à remonter à l'unité de base sociale, c'est-à-dire le groupe social de base et les stratégies qui sont associées. Alors, sur un petit jeu, j'ai repris toutes les caractéristiques de croissance, donc l'âge au sevrage, l'âge à la maturité sexuelle, la stérilité à l'adolescence, qui est la période pendant laquelle une adolescente est stérile, et ce qui lui permet de partir de son groupe originaire pour aller dans un autre groupe, et le temps qu'elle y a pour s'y installer avant d'être à nouveau fertile. Donc c'est plus ou moins long. Par exemple, chez les bonobos, c'est 4 ans de stérilité qui permet à la femelle adolescente de s'installer dans un groupe et de se mettre en place dans la position hiérarchique entre les femelles. Chez un gorille, eh bien, en fait, il n'y a même pas 6 mois. Donc pour dire que la transition entre un groupe très nombreux et un groupe où le nombre d'individus est restreint, eh bien, elle est assez marquée. Donc qu'est-ce que ça donne ? Donc on a les différents groupes. En fonction des caractéristiques de biologiques, on a les groupes mâles multifemelles dans ce secteur, les harems de ce côté-là, ici, gorille, orang-outan, puis là c'est le nomascus, c'est un gibbon qui est un mâle avec deux femelles qu'on retrouve sur une toute petite île, et les monogames qui sont le gibbon classique, les siamang et un petit peu les hommes. Mais enfin, les hommes, la monogamie chez les hommes, c'est assez particulier parce que, en gros, c'est peut-être un micro-harem à l'intérieur d'un grand groupe social. Donc, il faudrait arriver à discuter un petit peu de ces caractéristiques. Donc, ça veut dire que, d'après les caractéristiques de croissance, les petits groupes sont en relation avec des groupes sociaux monogames ou polygynes, ou les grands groupes sont en relation avec des stratégies, spermatiques ou non, des stratégies de reproduction rentrant dans des groupes multimâles, multifemelles. Donc, fort de ces observations, il va falloir trouver un moyen de rentrer avec les fossiles, parce que c'est là le but. Hein. Donc, sur les différentes phases de croissance, infantile, juvénile, adolescente et adulte, on va essayer de retrouver les périodes de transition, qui sont le sevrage, la maturité sexuelle, la maturité sociale et la période où on va parler des grands-parents. Donc là, on va essayer de reconstruire un petit peu les histoires de vie, donc comment je grandis dans mon espèce et dans mon groupe social. Alors, d'une manière générale, ce qu'on a longtemps fait, c'est fait des corrélations, c'est-à-dire qu'on prend un facteur, puis on voit si ça marche avec un autre. Si on obtient une droite, on a tout gagné. Par exemple, sur ce travail, on va travailler sur le poids du corps et... Le poids du cerveau. Et on va se rendre compte que plus le cerveau augmente, plus le corps augmente. Donc on a une belle droite. Ce qui fait que par la suite, grâce à ce genre de corrélation, on peut obtenir, là c'est en fonction du temps et de la dimension du groupe social, c'est-à-dire que plus on a un cerveau important, plus on a un groupe social complexe et au nombre d'individus qui le composent important. Ça c'était, entre guillemets, c'est une vision classique. Donc on voit les Australopithèques avaient un groupe d'une quarantaine d'individus, Homo habilis 80, c'est assez pratique, hein. 100 individus, 120 et 160. Alors ça c'est quand on regarde un petit peu la suite des publications, au départ les individus qui étaient ici ce sont des Néandertaliens. Donc ça veut dire que les Néandertaliens ont le groupe social le plus important et le plus grand qu'on peut retrouver chez les hommes fossiles. Voilà, donc on a une belle progression. Mais en fait, est-ce qu'il faut regarder les choses de cette manière ? Est-ce que c'est aussi simple ? Là, le même type de graphique, on voit les Australopithèques habilis erectus modernes, et en fonction du temps, toujours par rapport à la même corrélation qu'on a fait au départ, et le temps de complexité du groupe social, eh bien, ça augmente des Australopithèques jusqu'aux hommes modernes, c'est-à-dire que plus on va dans l'évolution, plus le groupe devient important en nombre d'individus, et plus le groupe devient complexe. Bon, c'est assez simpliste, mais est-ce que c'est bien comme ça qu'il faut regarder les choses ? Donc on va essayer d'aborder par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure, notre connaissance des grands singes. Voilà. Alors, paléontologue, je travaille sur les os. Comme Guillaume, j'utilise des points repères sur un crâne qui me donne une forme. Avec cette forme, je la compare et j'en obtiens toutes les différences. Là, j'ai 1000, admettons, j'ai 1000 individus par rapport à cette forme générale, moyenne, eh bien, je vois toutes les différences dans toutes les régions du crâne. Avec ces informations, je reconstruis les croissances. Donc là, j'ai pareil. Alors là, j'ai les gibbons, ici j'ai les grands singes, orang-outan, gorilles, bonobos, et ici j'ai l'homme. Donc quand on est un homme, on ne grandit pas de la même manière que les grands singes, ni que les gibbons. Première information. Mais pour aller au plus près et au plus simple, ça veut dire que sur les différentes phases de croissance, on a une morphologie pour les infantiles, une morphologie pour les juvéniles, pour les adolescents et pour les subadultes, transition entre adolescents et adultes. Ce qui nous permet, en comparaison, de voir que la croissance, elle est chaotique. il y a des hauts et il y a des bas. Donc la première phase, c'est la fériose infantile. Bon, après la naissance, l'enfant il grandit, effectivement, très rapidement. Après, on bascule vers un petit palier, qui est la phase juvénile. Et ce palier-là, c'est, entre guillemets, la période d'intervention du sevrage. Ici, la période juvénile, elle est plus ou moins longue en fonction du groupe social. S'il y a énormément d'individus, le temps d'apprendre chacun des individus, sa position dans le groupe, comment il faut que je réagisse avec eux, avec chacun, c'est assez long à apprendre et donc elle est plus ou moins longue en fonction des espèces. Ensuite, on a une grande période que tout le monde connaît ou a connue et qui est très difficile, c'est la période de la maturité sexuelle et la rentrée dans l'adolescence. Donc là, bouleversement hormonal, deuxième phase de croissance. Et après, on a une croissance qui réduit petit à petit jusqu'à... Donc on a des modifications morphologiques jusqu'à la fin de notre vie. On ne restera jamais les mêmes. Eh bien, là, sur ce petit schéma, ce qu'on voit, eh bien, c'est que l'histoire de croissance des mâles, tac, tac, n'est pas le même que chez les femelles. Ici, on est chez les chimpanzés. Donc, ça veut dire que morphologiquement, on peut arriver à reconstruire une histoire de croissance. Donc, vous voyez, première phase, deuxième phase. C'est important d'avoir ça en tête, parce qu'après, on va voir les différences. Si je compare tous ces groupes de grands singes que vous connaissez maintenant, donc, je vois que chez les gibbons, le dimorphisme, la différence entre les mâles et femelles est très peu visible, et on a deux histoires de croissance qui sont sensiblement identiques. Donc, dans un vrai groupe monogame, eh bien, on a peu de différences de croissance. Chez les hommes, bon, là, il y a une petite... c'est quasiment pareil que chez les gibbons. Le dimorphisme est assez faible, sauf que, eh bien, au niveau de l'adolescence, les femmes sont matures plus précocement que les hommes. Et ça dure plus longtemps. Les hommes, ils ont une pic de croissance beaucoup plus ciblée dans le temps. Là, on a les deux chimpanzés. Eh bien, on voit qu'entre le bonobo ici et le chimpanzé commun ici, eh bien, on n'a pas du tout les mêmes histoires de croissance. C'est-à-dire que même les différences qu'on a observées avec nos petits schémas de synthèse sur les bonobos et les chimpanzés, eh bien, on observe également ces caractéristiques dans l'histoire de croissance. Et quand on regarde les forts dimorphismes, donc chez les groupes polygynes, eh bien, on voit qu'il y a des différences entre l'orang-outan et le gorille. Donc elle vient certainement de leur relation avec leur territoire, la quantité de nourriture également, mais aussi dans la structure des relations que construit le mâle dominant avec les femelles. Alors maintenant qu'on a fait ça avec les crânes de grands singes et les crânes d'hommes, là c'est facile d'avoir les... Mais qu'est-ce qui se passe chez les Néandertaliens? Et qu'est-ce qui se passe chez les hommes de Cro-Magnon? On va prendre ces deux espèces comme fil conducteur, pour se poser un petit peu les questions de l'évolution du système social. Je reprends la courbe de croissance, l'histoire de croissance des hommes. Voilà, deux vagues de croissance, un palier, une période juvénile assez longue, la maturité sexuelle qui arrive tardivement au niveau de la phase adolescente. Donc, on a ce genre de courbe de croissance pour des populations historiquement connues du 19e siècle. Alors, chez les hommes de Cro-Magnon, qu'est-ce qui se passe? On va déjà comparer entre les hommes modernes. Eh bien, j'ai une période infantile, la même, bon, quasiment pareil. Un grand palier juvénile, donc la période juvénile est très très longue, ça c'est intéressant. Par contre, eh bien, les mâles hommes de Cro-Magnon sont adolescents plus tôt que les femmes de Cro-Magnon. Donc ça veut dire qu'ils sont matures plus précocement que les... Donc c'est complètement l'inverse de ce qu'on a ici. C'est même pas du tout la même histoire de croissance. Est-ce que ça veut dire que sur des populations du 19e siècle de France ou, admettons, de plusieurs continents, avec le même type de culture ou de régime social, eh bien entre aujourd'hui ou historiquement et les populations du Paléolithique supérieur, le groupe social n'était pas le même? Donc on peut se poser la question, est-ce que finalement, les groupes, entre guillemets, de chasseurs-cueilleurs ne vivent pas leur relation homme-femme différemment que nous, on le vit dans nos sociétés aujourd'hui? Est-ce que, alors si on regarde plus loin, moi j'ai d'autres résultats qui montrent qu'en fait la transition, elle vient au niveau du néolithique. Le néolithique, c'est le début de l'agriculture, c'est le début de la domestication. Alors, traditionnellement, on dit que c'est le passage à la société patriarcale. Alors, est-ce que ça veut dire que le passage à la société patriarcale, eh bien, est à l'origine de ces changements d'histoire de croissance entre les populations de chasseurs-cueilleurs et les populations historiques? Donc, ça veut dire qu'on vit aujourd'hui, nous, sous un mode de croissance, une histoire de croissance qui est issue du néolithique, mais pas plus loin. Donc là, vous remettez la phrase que j'ai dit au début, qui était « Est-ce que mon corps m'appartient ?» Eh bien, on se rend compte qu'au néolithique, il y a peut-être eu un changement dans le fait que si je choisis, j'ai la liberté de choix de mon partenaire pour construire, entre guillemets, mon couple, eh bien, je vais pouvoir maîtriser mon corps. Si culturellement, ben, je n'ai pas le choix, eh ben, ce choix-là, je ne pourrais pas l'affirmer à un moment donné ou à un autre. C'est-à-dire que d'un point de vue évolutif, les hormones ne sont pas libérées au même moment. Donc on peut avoir une contrainte sociale et culturelle qui va influencer sur le fonctionnement hormonal du corps. Donc là vient peut-être le type de différence. Ensuite, eh bien, je vais comparer avec les hommes de Néandertal. Eh bien, j'ai encore pas le même type de croissance. Alors là, rien à voir avec les hommes de Cro-Magnon. On a une croissance qui est beaucoup plus rapide, peut-être pas pour les mâles, mais en tout cas pour les femmes néandertaliennes, oui. Donc elles sont matures quasiment à la fin de la phase juvénile, donc ils ont une phase adolescente avancée, on va dire. Croissance rapide, comme il a été trouvé dans certaines revues, à partir d'analyses faites sur les dents. Et là, au niveau du crâne, eh bien, on a également le même type d'information. Donc ça veut dire que les Néandertaliens ont une croissance extrêmement rapide dans un groupe social où on demande une reproduction très rapidement, c'est-à-dire une succession de générations très, très rapprochée. Rien à voir avec ces hommes. Donc on va essayer d'aller plus loin. Mais effectivement, entre ces hommes fossiles, on a déjà des grosses différences. Je reprends l'analyse que j'ai faite au départ. En rajoutant toutes mes courbes de croissance, ça veut dire qu'avec toutes ces histoires de croissance, de comment je grandis dans mon groupe social, eh bien, et qu'effectivement, entre les hommes fossiles et les hommes d'aujourd'hui, eh bien, il y a une grosse différence de croissance, et que celle-ci est liée au fait que les stratégies de croissance et donc de reproduction dans les groupes de chasseurs-cueilleurs n'ont rien à voir avec celles de sociétés civilisées, non je dis ça avec humour, hein, de sociétés modernes et historiques. Et les hommes de Néandertal sont paradoxalement assez proches de nous, d'une certaine manière, sauf qu'ils ont une croissance beaucoup plus rapide qui tend vers le type harem. Donc ça veut dire que le groupe multimâle, multifemelle peut avoir une organisation différente en fonction de l'économie, par exemple, de subsistance, ce qui fait que les chasseurs-cueilleurs sont plus égalitaires dans les rapports hommes-femmes, donc ça veut dire que chacun a le choix de son partenaire. Dans chez les hommes, eh bien, il y a peut-être plus une prévalence au 19e, hein, je n'ai rien à voir avec aujourd'hui, du choix des hommes par rapport aux femmes. Et chez les Néandertaliens, c'est peut-être la même chose, d'où je parlais que le mariage était une sorte de petit harem, mais à taille réduite. Donc on se retrouve peut-être avec, pour les hommes de Néandertal, avec quelque chose également, des groupes sociaux de petite taille, avec un mâle et plusieurs femelles, ou des petits harems de taille réduite associés également. Mais il y a une forte compétition entre les hommes de Néandertal. Si on proposait, allons-y, un scénario évolutif des groupes sociaux, pour revenir, et qu'on prenait par exemple hypothèse que le groupe ancestral était un groupe multimâle, multifemelle type chimpanzé ou proche, on va comparer avec les australopithèques. Eh bien, les australopithèques se retrouvent dans le même coin, même type de dimorphisme, c'est-à-dire même type de différence entre les mâles et les femelles, très, assez important. Les homo habilis ont également une grande part de différence entre mâles et femelles. Et il se passe que les hommes sont sortis d'Afrique à un moment donné. Alors, qu'est-ce qu'a produit cette migration? Eh bien, dans un premier temps, on se rend compte qu'on peut avoir, à cause de la migration, une réduction des groupes sociaux, c'est-à-dire réduction du groupe social pour augmentation du dimorphisme sexuel. Et donc, dans cette migration, le dimorphisme sexuel des ergastères, des homo erectus jusqu'aux hommes de Néandertal reste assez important et assez proéminent. Donc ce qui veut dire qu'on a peut-être une vague de migration ancienne qui est arrivée peut-être en Europe et qui a produit ces hommes de Néandertal avec leurs caractéristiques anatomiques. Donc c'est lié à ce genre de petite population qui va de proche en proche suivre la migration. Est-ce que les hommes modernes, eh bien, on va peut-être puiser dans un fond multimâle, multifemelle assez ancien, développé en Afrique, et qu'à un moment donné, culturellement, on a réussi à trouver les moyens de voyager, mais en groupe, de grande taille. Ce qui fait que depuis le paléolithique très ancien, où on a des hommes modernes, donc depuis au moins le paléolithique moyen, eh bien, on va avoir des grands groupes qui vont de proche en proche sortir d'Afrique également, mais avec une structure qui sera complètement différente de celle des hommes de Néandertal. Donc les différences entre les hommes et les femmes également observées. Je vous remercie.
Vous venez d'écouter Guillaume Davert et Jean-Jacques Millet dans le cadre du colloque « Des singes pour modèles » qui avait lieu le 15 octobre 2009 à l'Institut de paléontologie humaine. Vous pouvez télécharger gratuitement cette émission sur le site de Canal Academy. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.